Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir. Romain Oswin.
Mercredi 11 septembre, bonsoir à tous, on a des yeux et des oreilles sur tous les continents, on va vous raconter ce qu'il se passe dans les trois prochaines heures, bienvenue dans la session soirée de l'info sur RFI. Les temps forts à suivre, le débat du jour, y a-t-il une instrumentalisation religieuse des conflits? C'est la question que nous poserons, le pape François le craint, lui qui a signé la semaine dernière un document sur le sujet au cours de sa tournée en Asie-Pacifique qui va s'achever dans deux jours. Où s'arrêtent les sanctions, où commencent les menaces sur la liberté religieuse? Et bien rendez-vous dans 30 minutes. 18h10 TU, le décryptage. Au lendemain du débat entre les candidats à la Maison-Blanche, Kamala Harris et Donald Trump, Anne Corpé s'interrogera sur l'impact que ce grand rendez-vous a eu sur la campagne présidentielle. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition. Sylvie Berruet ce soir aux manettes. 19h10 TU, enfin votre session reportage. Accent d'Europe s'intéressera au délit de faciès en Belgique et en France. Enfin le grand reportage en Colombie ce soir. Les prisons sont haute tension. Voilà pour le programme. C'est parti. Bonsoir Raphaël Rennes.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Il y a le grand journal du soir pour commencer. Et à la une, Donald Trump qui affirme que le débat qu'il opposait hier soir à Kamala Harris était, je cite, « truqué ».
L'ancien président assure que les journalistes de la chaîne de télévision ABC ont favorisé sa rivale démocrate. Près de 24 heures après ce débat, que disent les sondages, les analystes? Nous appellerons David Thompson aux États-Unis dès le début de cette édition. Le ministre russe de la Défense sur la ligne de front, c'est en tout cas ce que disent les médias russes qui montrent une vidéo d'Andrei Bolousov en uniforme. Ce sera le dossier de cette édition avec Anissa El-Jabri à Moscou. Et puis en France, Michel Barnier poursuit ses consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre, nommé la semaine dernière, était avec des élus du parti centriste Horizon ce mercredi. Il promet un gouvernement pour la semaine prochaine.
La cote de Donald Trump s'érode chez les bookmakers américains.
Au lendemain du débat télévisé qui a opposé hier soir l'ancien président républicain à sa rivale démocrate, c'est Kamala Harris qui tient la corde chez les parieurs. L'action du groupe de médias de Donald Trump a par ailleurs plongé ce mercredi, perdant plus de 12% de sa valeur aux alentours de 15h30 en temps universel. David Thompson est avec nous en direct des États-Unis. David, est-ce que les sondages d'opinion disent la même chose? Est-ce que les lignes ont bougé? Qui a remporté ce débat selon les sondeurs?
Alors vous savez Raphaël, les analystes politiques américains avaient coutume de dire que les débats présidentiels n'ont pas vraiment d'importance dans la campagne. Plus grand monde ne partage cette analyse depuis le débat catastrophique du 26 juin qui a forcé un président sortant, Joe Biden, à se retirer de la présidentielle à 6 mois de l'élection. Ce matin, les sondages post-débat d'hier soir sont donc particulièrement scrutés. Première question, quel impact sur les swing voters, ces fameux électeurs indécis? Ce matin, Sarah Longwell, une sondeuse réputée aux États-Unis, a mené une première enquête qualitative sur 10 électeurs. Électeurs indécis. Sur ces 10, 7 estiment avoir une plus mauvaise opinion de Donald Trump après le débat. 8, en revanche, ont une meilleure impression de Kamala Harris. Un seul garde la même idée des deux candidats. C'est donc un avantage clair pour Kamala Harris, conclut la sondeuse. Autre question, selon les Américains, qui a gagné ce débat? Selon un sondage de CNN, 63% des Américains estiment que Kamala Harris l'a emporté. Seuls 37% voient Trump victorieux. Un avis que semblent partager les commentateurs globalement des chaînes d'information américaines, mais aussi la campagne de Kamala Harris elle-même, puisque ses équipes viennent de publier l'intégralité de la vidéo du débat sur tous leurs réseaux sociaux.
David Thompson, correspondant d'RFI aux États-Unis, et ce mercredi, Donald Trump a donc assuré que le débat avait été truqué par la chaîne organisatrice ABC, truqué en faveur évidemment de sa rivale démocrate. Kamala Harris qui a reçu après le débat un soutien de poids, celui de Taylor Swift, artiste chanteuse aux millions de fidèles.
Les États-Unis et les conséquences de la mort d'une citoyenne américaine la semaine dernière en Cisjordanie.
Et c'est Nour Ezgi Egi, qui avait également la nationalité turque, a été tué par une balle israélienne alors qu'elle participait à une manifestation de soutien aux Palestiniens à proximité d'une colonie. L'armée israélienne estime qu'il est très probable que ces tirs aient tué indirectement et involontairement la jeune femme. Et du côté de Washington, la réaction officielle semble un peu hésitante, Nicolas Falaise.
L'administration américaine semble chercher ses mots après la mort d'une citoyenne des États-Unis victime d'une balle israélienne. Mardi, le président Joe Biden a parlé d'un accident et d'un ricochet sur le sol, pour décrire les circonstances dans lesquelles Aïssénour Esghiaïghi a été tuée alors qu'elle participait à un rassemblement contre la colonisation israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Ce mercredi, Joe Biden change de vocabulaire, se disant indigné par des tirs inacceptables. Le président américain estime que des comptes doivent être rendus et qu'Israël doit en faire plus pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré pour sa part que l'armée israélienne devait procéder à des changements fondamentaux après cette mort injustifiée. De son côté, la famille de la jeune américaine a rejeté les conclusions de l'enquête préliminaire de l'armée israélienne, qualifiée de complètement insuffisante.
La Cisjordanie, où l'armée israélienne annonce ce soir la mort d'un soldat après une attaque au camion Bélier.
Oh, également au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, à présent ce nouveau bilan qui a été publié par le ministère de la Santé du Hamas.
Plus de 41 000 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre il y a 11 mois. Les bombardements israéliens à Gaza ont fait au moins 64 morts au cours des dernières 24 heures, ajoute le Hamas. La défense civile de Gaza annonce par ailleurs ce soir que 14 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur une école transformée en abri pour des Palestiniens déplacés de guerre. L'armée israélienne affirme de son côté avoir visé des terroristes du Hamas. Bilan et information que RFI n'est pas en mesure de confirmer pour l'instant.
L'Iran et l'Irak qui tentent de renforcer leur coopération. Et les deux pays ont signé 14 protocoles d'accord.
C'est ce qu'annonce le président iranien, actuellement en visite à Bagdad. Première visite à l'étranger de Massoud Pezeshkian depuis son élection. Les accords signés portent notamment sur l'éducation, les communications, mais aussi l'agriculture et les ressources naturelles.
Allez, place à présent à notre dossier dans le grand journal du soir, Raphaël Rennes. C'est une première pour le nouveau ministre russe de la Défense. Andrei Belousov est apparu dans les médias russes à la mi-journée. Il est apparu vêtu d'un uniforme.
Une vidéo qu'il présente comme dans la zone de l'opération spéciale, visitant les troupes, remettant des médailles. Nous sommes en ligne pour en parler avec Anissa El-Jabri en direct de Moscou. Anissa, ces images sont étonnantes pour un économiste de formation dont il avait été dit jusqu'à présent que son rôle n'aurait rien à voir avec le domaine militaire stricto sensu.
Oui, vous avez raison. Et pour bien vous donner la mesure de ces images, eh bien sachez que depuis sa nomination surprise le 12 mai dernier, on a vu Andrei Belousov une seule fois revêtu du kaki caractéristique de l'armée russe. C'était 3 semaines environ après son arrivée lors d'une réunion du Conseil de sécurité télévisée. Et cette apparition en tenue militaire, elle avait été alors décrite avec beaucoup d'étonnement dans les médias russes, surtout que Belousov présentait alors les attributs d'un très gradé. L'agence TASS avait même d'ailleurs très vite donné cette précision. Je cite « Non, Belousov n'a pas été promu général. Le nouveau chef du ministère de la Défense conserve son grade civil. » Seconde précision de l'agence d'État qui n'a évidemment rien d'un détail. Son prédécesseur à ce poste, Sergueï Choïgou, a lui, au contraire, le grade militaire de général d'armée. Alors notons quand même, Raphaël, qu'aucun des deux n'a jamais été soldat. En tout cas, à l'époque, pour être bien sûr que la parenthèse de l'économiste en uniforme soit fermée, beaucoup d'autres spécialistes étaient intervenus dans les médias russes pour expliquer, je cite par exemple un analyste militaire, « Il y a clairement une distinction entre le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Le ministre de la Défense est la personne chargée de fournir à l'armée des équipements, des moyens. C'est un domaine technique, scientifique. Le chef d'état-major, lui, il est entièrement responsable de la composante militaire. »
Mais alors pourquoi maintenant, Anissa, ce qui ressemble à un changement de pied ?
Bon, franchement, Raphaël, c'est encore assez difficile de le savoir précisément. Mais ce qu'on observe en parallèle, c'est un affaiblissement continue des réseaux de son prédécesseur au sein du ministère de la Défense. C'est du jamais vu. Écoutez bien, depuis mi-avril, soit en à peine 5 mois, une dizaine de généraux et responsables du ministère de la Défense ont soit été poursuivis dans des affaires de fraude et de corruption, soit directement placés en détention. Derrière ces poursuites, il y a le comité d'enquête. Et là-dessus, n'ayez absolument aucun doute, c'est un organe très puissant. Il répond directement au Kremlin. La totalité de ces décisions, elle est donc prise avec l'aval ou bien l'impulsion directe du sommet du pouvoir.
Mais autrement dit, ce qui a clairement pris des allures de purge au sein du ministère de la Défense commence aussi à donner le sentiment que l'influence de Sergueï Choïgou auprès de Vladimir Poutine est en train de décroître.
Voilà, c'est ça, et ce n'est pas rien quand tout le monde sait en Russie et ailleurs que les deux hommes ont longtemps passé leurs vacances ensemble. Les photos de Vladimir Poutine et Sergueï Shoigu torse nu en train de bronzer, tout le monde les connaît. Alors c'est vrai, on n'en a pas vu une seule depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et puis lundi dernier, quand Vladimir Poutine était pour le jour de la rentrée à Touva, c'était sans Sergueï Shoigu. Et c'est quand même pourtant le fief de l'ancien ministre de la Défense. Et ça, vous l'imaginez bien, ça n'est pas non plus passé inaperçu. Il est donc écarté du cercle proche du chef de l'État, Sergueï Shoigu. Il reste épargné parce que il occupe ce poste prestigieux de secrétaire du Conseil de sécurité. Mais voilà, il assiste impuissant au ciblage de ses proches. Alors aux yeux de toute la Russie, il est même devenu l'homme désormais incapable de défendre les siens.
Dossier de la rédaction signé Anissa El-Jabri, envoyée spéciale permanente de RFI à Moscou.
Et on évoquait l'Ukraine où Anthony Blinken et David Lamy sont arrivés ce mercredi.
Le secrétaire d'État américain, son homologue britannique, sont à Kiev pour confirmer une fois de plus l'engagement de leurs pays respectifs pour la victoire de l'Ukraine. Anthony Blinken vient d'annoncer une nouvelle aide économique de 717 millions de dollars à l'Ukraine. Mais il s'agit surtout pour Kiev de discuter des règles d'utilisation des armes occidentales contre la Russie, alors que Moscou est accusé d'avoir reçu des missiles balistiques de la part de l'Iran. L'Ukraine souhaite la levée de toute restriction sur les frappes en Russie, autrement dit pouvoir utiliser ses armes comme bon lui semble. La victoire de l'Ukraine dépend essentiellement du soutien américain, déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
RFI 14h11 à Buenos Aires, en Argentine, tous les regards sont tournés vers le Congrès.
Et vers les députés qui doivent voter sur le veto de Javier Milei à la revalorisation des retraites, qui a été approuvée par le Parlement le mois dernier. Pour lever ce veto, l'opposition doit réunir une majorité des deux tiers à la Chambre des députés et au Sénat. Théo Conscience, vous êtes en direct de Buenos Aires, vous êtes actuellement devant le Congrès. Une mobilisation a lieu pour faire pression sur les élus.
Oui, une mobilisation massive avec plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées devant le Congrès qui a été totalement barricadée par les forces de l'ordre. Les collectifs de retraités, les organisations sociales et les principales centrales syndicales du pays ont appelé à manifester et à défendre cette revalorisation des retraites. Les retraites qui ont été grignotées par l'inflation galopante ces 6 derniers mois, à tel point qu'aujourd'hui, plus de 5 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Les manifestants font face à un imposant dispositif de sécurité. Le protocole très controversé anti-blocage du gouvernement a été activé, avec des policiers en tenue anti-émeute et des canons à eau. Pour l'instant, aucun incident n'a été à déplorer à ma connaissance et tout se joue à l'intérieur du Parlement. Je discutais il y a quelques instants avec une assistante parlementaire d'une députée de l'opposition qui me disait qu'elle n'était pas très confiante. Il semblerait que le gouvernement a fait un travail de sable pour s'assurer que l'opposition ne réunisse pas la majorité des deux tiers nécessaires à lever le veto, ce qui semblait pourtant possible, voire probable, il y a encore quelques jours.
Théo Conscience, correspondant de RFI en Argentine.
Et puis le bras de fer qui continue entre la Chine et le Canada.
Après avoir imposé une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois, Ottawa envisage de s'attaquer à d'autres importations vertes. Dans le viseur des autorités canadiennes, minéraux critiques, batteries, semi-conducteurs, produits d'énergie solaire. Gali Bonin, c'est un nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les deux pays.
Ottawa accuse Pékin de pratiques concurrentielles déloyales parce que la Chine subventionne abondamment ses industries vertes, énergie renouvelable, voitures électriques et batteries. Le gouvernement de Justin Trudeau se lance donc dans 30 jours de consultation avant de décider s'il augmente oui ou non ses droits de douane. Les États-Unis ont déjà imposé une mesure similaire. Selon Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, c'est Washington qui est derrière cette annonce canadienne.
Compte tenu de l'accord commercial préférentiel qui existe entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la crainte qu'il puisse y avoir des détournements de flux commerciaux par le Canada a mené Washington à exercer une pression forte sur son voisin canadien pour également dresser les mêmes barrières tarifaires.
L'objectif de Washington serait de faire de l'Amérique du Nord une forteresse impénétrable pour les industries vertes chinoises. Vu la dépendance commerciale et la proximité des deux pays, le Canada n'a pas vraiment le choix de suivre. De son côté, la Chine accuse le gouvernement canadien de protectionnisme. Elle a déposé une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce et menace de limiter ses importations de colza qui ont dépassé les 3 milliards d'euros en 2023.
Gali Bonin du service économie de RFI. En France, enfin, Michel Barnier, Raphaël Rennes qui poursuit ses consultations afin de former un gouvernement.
Le nouveau Premier ministre continue de rencontrer les cadres du camp présidentiel. Et puis ce mercredi, il a déjeuné avec les élus Horizon en marge de leur journée parlementaire à Reims. Michel Barnier qui promet qu'un gouvernement sera nommé la semaine prochaine, Charlotte Urien-Tomaca.
Après Ensemble pour la République, c'était au tour d'Horizon de recevoir le Premier ministre. Une rencontre qu'il a qualifiée de très chaleureuse, se disant presque ému de l'accueil qui lui a été réservé. Le nouveau Premier ministre l'a réaffirmé, il compte bien marquer une rupture et donner un nouvel élan dans la composition de son gouvernement. Michel Barnier.
Il y aura un nouveau gouvernement, comme c'est la mission qui m'a été confiée et que j'ai acceptée. Donc ça ne sera pas un remaniement. On va avoir une équipe nouvelle qui va tenter et s'efforcer avec ténacité de répondre aux préoccupations des Français. Voilà.
Si pour lui, les bonnes idées ne viennent pas toujours d'en haut, Michel Barnier a également expliqué aux élus qu'il a besoin d'écouter tout le monde pour trouver un point d'équilibre. Le nouveau locataire de Matignon a désormais une idée un peu plus précise du calendrier.
On fera les choses méthodiquement, sérieusement. J'écoute tout le monde. Au moment où je suis, j'ai rencontré la plupart des présidents de groupe. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi. Et la semaine prochaine, on nommera le gouvernement.
L'entourage du Premier ministre précise que la date de la semaine prochaine constitue, je cite, un objectif, mais ne doit pas être une contrainte.
Charlotte Urien, Tomaca, il est 19h16 à Paris. RFI Soir, c'est avec vous, Romain Ouzouille.
Merci Raphaël Rennes, c'était le grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ouzouille.
Et on va décrypter tous ces enjeux de politique française dans les prochaines minutes. On appellera Yves Tréhard de la rédaction du Figaro. Il y a effectivement ce gouvernement qui est attendu la semaine prochaine. Et puis, il y a Édouard Philippe que Michel Barnier, le Premier ministre, a rencontré aujourd'hui, qui est déjà candidat à la prochaine présidentielle. On va décrypter tous ces enjeux dans les prochaines minutes. Reportage ensuite de notre correspondante à Kiev. Reportage auprès des civils russes qui combattent aux côtés des forces ukrainiennes. Ils sont plusieurs centaines. Et ils ne sont pas toujours reconnus par l'Occident, alors qu'ils incarnent une forte opposition au président russe Vladimir Poutine. Mais pour le moment, ce sont les sports.
C'est un artiste, c'est au-dessus du lot. Alors on peut discuter avec Pelé. Mais ce qu'il a en plus, c'est ce qu'il dégage d'un point de vue émotionnel. Maradona, on ne peut pas lutter.
Vous connaissez cette voix, Babacar Diarra, bonsoir.
Bonsoir Romain.
La voix de Jean-Yves Didier Roustan, il est décédé la nuit dernière à l'âge de 66 ans et tout le monde dit que c'était un romantique du football.
Dans sa vision, la beauté du geste passait avant les résultats. Didier Roustan a narré les exploits de tant de joueurs en tant que présentateur, reporter ou commentateur dans les années 70, 80 et 90 à la télévision française. Puis plus tard, dans un rôle de chroniqueur, un des grands noms du ballon rond, il en a côtoyé beaucoup de près, comme Pelé, Michel Platini ou Diego Maradona, avec qui il avait lancé un syndicat international des joueurs. Le natif de Brazzaville au Congo était un personnage incontournable des plateaux télé hors des codes, un peu rebelle dans l'âme et évidemment passé à plusieurs reprises par les studios de RFI pour l'émission Radio Foot International qui lui a rendu hommage aujourd'hui. Vous pouvez la réécouter en podcast.
Alors c'était un grand amateur de football sud-américain, Didier Roustan, et il avait, on peut l'imaginer, suivi jusqu'à ses dernières heures les matchs de l'Argentine.
Il avait d'ailleurs commenté la dernière Copa América pour nos confrères de l'équipe, un tournoi remporté par l'Albiceleste face à la Colombie. Les Cafeteros se sont vengés hier en éliminatoire du Mondial 2026 en s'imposant 2-1 à Barranquilla. La star colombienne James Rodriguez a inscrit le but décisif sur pénalty à l'heure de jeu. C'est la deuxième défaite en 8 matchs pour les Argentins, privés à cette occasion de Lionel Messi, un revers difficile à digérer pour le sélectionneur Lionel Scaloni.
On est fâché dans le sens où on n'aime pas perdre, mais voilà, c'est fait. Après, on va dire que l'on ne sait pas perdre. Si, on sait perdre. C'est juste que ça fait mal. Des fois, cela tourne dans ton sens, des fois non, c'est comme ça. Mais c'est triste et dommage qu'après leur pénalty de la 60e minute, on ne pouvait quasiment plus jouer. Il y a eu trop de fautes, de jeux hachés, de temps gagné. C'est ce qui m'a gêné. C'est ma vision. Après, la Colombie a gagné, il faut la féliciter. Et voilà.
Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, en tête des éliminatoires AM Sud avec 2 points d'avance sur la Colombie. Beaucoup plus loin, le Brésil reste bloqué à 8 longueurs après sa défaite 1-0 au Paraguay.
Allez, le tennis, la phase de groupe de la Coupe Davis qui se poursuit ce mercredi.
Après son US Open raté, Carlos Alcaraz peut rapporter la victoire à l'Espagne. Il est opposé c'était un Tchèque sur le courant dur de Valence, en l'occurrence Thomas Macha, qui avait 5 partout dans le premier set. Son équipier Roberto Bautista Agut a rapporté le premier point de la journée aux Ibères en s'imposant 7-6, 6-4 face à Yiri Leeka. L'Espagne défiera vendredi la France pour son deuxième duel de phase de groupe. Dans les autres résultats du jour de cette Coupe Davis, les États-Unis ont dominé le Chili 2-0. Même tarif pour la Grande-Bretagne face à la Finlande. L'Italie est en passe de s'imposer face au Brésil sur le même score.
Alors, on termine avec du basket, Babacar, car demain, il y a le début de cette compétition, la Coupe intercontinentale de la FIBA à Singapour.
C'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde des clubs, avec 6 équipes en lice, dont 5 vainqueurs de Coupe continentale. Demain matin, avec le décalage horaire, le club angolais Petro de Luanda, vainqueur de la Basketball Africa League, débutera face à l'Unicaja Malaga, sacré en Ligue des Champions européennes. Dans l'autre rencontre, les Argentins de Kimsa, vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, croiseront une sélection de G-League, l'antichambre de la NBA.
Et ben voilà qui est complet, Baba Cardiara. Merci beaucoup. 19h20 ici à Paris. Et comme promis, on reparle politique française, alors que Michel Barnier, on l'a dit dans le grand journal du soir, de Raphaël Rennes, le Premier ministre poursuit ses consultations en vue de la formation de son gouvernement. Il a participé ce mercredi aux journées parlementaires du parti Horizon d'Édouard Philippe. Voilà quelqu'un sur qui il faudra sans doute compter dans les prochains mois, Édouard Philippe. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
En direct de la rédaction du Figaro, vous êtes intéressé à cette rencontre qui a été suivie de très près hein, entre Michel Barnier et Édouard Philippe.
Oui, effectivement, on s'est intéressé à cette rencontre qui est beaucoup plus chaleureuse que la rencontre qu'il y a eu hier entre l'ex-premier ministre, c'est-à-dire Gabriel Attal, et le nouveau premier ministre, Michel Barnier, rencontre qui a eu lieu d'ailleurs à huis clos, sans journaliste, alors que là, bon, bah, tout le monde est convié, et Édouard Philippe n'arrête pas d'avoir des propos très agréables pour Michel Barnier. Il y a de fortes chances d'ailleurs que des soutiens d'Édouard Philippe, de son mouvement politique Horizon, qui compte quelques 40 députés à l'Assemblée nationale, bien, parmi eux, il y en a quelques-uns qui entrent dans le gouvernement de Michel Barnier, qui, comme vous le savez, est en train de consulter, de peser, de sous-peser les équilibres qu'il doit, à son avis, respecter pour ne pas être renversé, parce que tout le problème de Michel Barnier, c'est qu'il ne dispose pas de majorité relative, de majorité absolue, ça c'est sûr, et que sa majorité relative, elle est à construire, elle reste à construire. Ça sera très compliqué pour avoir un gouvernement qui tienne la route et qui arrive à conduire néanmoins une politique qui soit présentable aux Français.
On a parlé d'Édouard Philippe, c'est intéressant parce que il se trouve que demain, jeudi, Édouard Philippe va recevoir la visite au Havre pour les 80 ans de la libération de la ville du président de la République, Emmanuel Macron.
Oui, alors justement, Édouard Philippe, qui a été le premier ministre effectivement d'Emmanuel Macron, eh bien, a pris ses distances avec le président de la République. Il a même dit que le président de la République avait tué la majorité présidentielle. Il a, on le sait, déclaré sa candidature dans des circonstances assez étonnantes d'ailleurs, il y a quelques jours pour la présidentielle de 2027, alors que on était encore en attente d'un premier ministre. Donc, Édouard Philippe a pris ses distances avec le président de la République, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas obligé d'en tenir compte, puisque il a quand même été son premier ministre et qu'il se situe dans ce centre, cet axe central, qui est assez large d'ailleurs, et qu'il voudrait représenter face au Rassemblement national de Madame Le Pen d'un côté, et puis à la gauche plus radicale de Monsieur Mélenchon de l'autre, dans 3 ans à la présidentielle.
Ouais, l'ombre de 2027 évidemment plane au-dessus désormais d'Édouard Philippe, candidat déclaré, mais pas seulement lui. Est-ce qu'on peut citer d'autres noms? Le Premier ministre sortant qui a été remplacé par Michel Barnier, Gabriel Attal, et peut-être même Michel Barnier, est-ce qu'il peut être candidat?
Alors Michel Barnier, le goût peut lui venir en gouvernant, effectivement. Est-ce que on a vu ça par le passé, souvent des premiers ministres bien finissent par briller la présidence de la République. Ça leur réussit rarement, d'ailleurs, on doit le dire. Il y a Gabriel Attal, effectivement, qui d'ailleurs a pris soin de présider le groupe de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, donc Gabriel Attal. Et puis il y a aussi quelqu'un dont on parle de plus en plus, qui revient, je dirais, dans l'actualité, puisque il s'en était un peu affranchi, c'est évidemment Monsieur Wauquiez, Laurent Wauquiez, le patron, celui qui fait figure aujourd'hui de patron des Républicains, qui préside le groupe LR, de ce qu'on appelle la droite républicaine, qui s'est rebaptisé d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Eh bien, Laurent Wauquiez, est-ce qu'il ira dans un gouvernement Barnier? La rumeur a couru. Elle est un peu plus, je dirais, un peu plus, elle est un peu moins forte aujourd'hui. Et lui aussi, évidemment, il n'en fait pas le secret. Il se dirige tout droit vers 2027. Est-ce que d'aller dans un gouvernement, ça le gênerait, ou au contraire, faut-il qu'il s'en préserve sans y aller? C'est toute la question qui est posée actuellement.
Ouais, et les Républicains, qui sont aussi sous les feux de l'actualité, ils vont à partir de ce soir se retrouver à Aix-les-Bains pour les députés, à Annecy pour les sénateurs, c'est respectivement en Savoie.
Barnier va les visiter d'ailleurs.
Voilà. Merci tout beaucoup. Fait. Merci beaucoup Yves Tréhard. Et très bonne soirée.
Merci
à vous.
Merci Romain.
En direct du Figaro, 19h25 ici à Paris. Et on évoque à présent ces civils russes qui combattent aux côtés des Ukrainiens. On les retrouve au sein du bataillon sibérien, anti-impérialiste, opposé à Vladimir Poutine, russe salve et issu de différents groupes ethniques. Eh bien, ils sont pourtant peu soutenus par l'Occident, alors qu'ils dénoncent un système d'oppression dont ils sont issus et qu'ils entendent coûte que coûte combattre. C'est un reportage de notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz.
Certains reviennent de Belgorod, où ils ont participé aux premières incursions en territoire russe au mois de mars dernier. D'autres de la péninsule de Kinburn, dans le sud de l'Ukraine, où avec d'autres soldats, ils ont participé à des offensives cet été. Les hommes que vous entendez ici sont tous russes. Ils font partie du bataillon sibérien et se battent contre les troupes de Moscou aux côtés des Ukrainiens. Si leurs horizons sont divers, ils partagent la conviction qu'il leur fallait prendre les armes contre leur propre pays, comme le confie Walter, une cinquantaine d'années, qui a rejoint le bataillon à l'automne 2023.
Nous ne sommes encore que quelques-uns, mais nous avons fait notre choix. Le bataillon sibérien et d'autres unités militaires composées de citoyens de la Fédération de Russie ont choisi leurs armes. Et j'exhorte tous ceux qui détestent le régime de Poutine à apporter leur aide et à y participer.
Ce soutien de quelques Russes à la défense ukrainienne est loin d'être anodin. Pour bien des recrues du bataillon sibérien, il appuie leurs propres aspirations d'indépendance, celles des minorités de la Fédération de Russie, comme les Bashkirs, mais aussi les Bouriates ou encore les Yakouts. Aux côtés de Walter et Maloy, on retrouve Kipchak, lui aussi Bashkir. Âgé d'une quarantaine d'années, il a quitté la Russie et sa profession libérale au moment de l'invasion à grande échelle. Pour lui, soutenir le combat des Ukrainiens est aussi appuyer la libération de son propre peuple.
L'une de mes motivations pour venir ici et aider l'Ukraine à résister à l'agression russe, c'est précisément la compréhension que nous ne pouvons combattre le régime qu'en soutenant d'autres peuples. Autrement dit, l'exemple de la Tchétchénie montre qu'une seule république n'est pas capable de combattre Moscou. Aujourd'hui, la situation est telle que peut-être le seul pays qui peut nous aider à libérer notre république, c'est l'Ukraine. Finalement, notre objectif est assez égoïste. En aidant l'Ukraine, nous espérons qu'à l'avenir, avec le soutien de pays pour ainsi dire civilisé, nous pourrons libérer nos républiques.
Chaque mois, le bataillon sibérien s'étoffe. Pour Walter, c'est aussi une question d'honneur pour ceux des Russes qui se disent opposés au régime du Kremlin.
Il existe une expression, le collier d'un esclave est toujours plus léger que l'armure d'un guerrier. Mais même si je meurs, je saurai que je n'ai pas vécu cette vie en vain. Je mourrai pour une juste cause. Vous avez une chance de devenir humain et de vous regarder dans le miroir sans honte. Pensez à la façon dont vos enfants grandiront et à ce qu'ils vous diront. Papa, maman, où étiez-vous à ce moment-là ?
Papa, maman, à qui ?
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Voilà, et retour à Paris. 19h28, dans un peu plus d'une minute, il sera question de l'Ukraine, et notamment, pas que de l'Ukraine, mais notamment dans le débat du jour. À la fin de l'été, un projet de loi a été adopté en Ukraine, prévoyant l'interdiction de l'église orthodoxe liée à la Russie. Cela nous amène à poser cette question. Est-ce qu'il y a, dans les conflits aujourd'hui, une instrumentalisation religieuse? C'est la crainte exprimée récemment par le pape François qui a signé en ce sens un document lors de sa tournée en Asie-Pacifique qui se poursuit. Restez à l'écoute, c'est dans une minute sur Radio France Internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
douleurs intestinales, des conseils pour soulager les maux de ventre.
Vendredi,
dans notre émission Questions de femmes, être une maman solo.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Dans une portée de chat, il y a toujours un jaguar, dit la légende. C'est le cas d'Antonio, enfant trouvé, qui deviendra le plus grand médecin du Venezuela. Une saga familiale et la traversée d'un siècle, racontée avec un verbe opulent par Miguel Bonnefoy dans son nouveau roman Le rêve du jaguar.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.